Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Emmanuel Macron veut ouvrir 200 000 places dans des formations qualifiantes pour permettre à un jeune sans perspective de continuer ses études. C'est l'une des nombreuses annonces faites hier après-midi pendant son interview.
Le chef de l'État souhaite aussi généraliser les caméras piétons pour les forces de l'ordre. Dans ce cas, le matériel doit être fiable, prévient le syndicat des commissaires de la police nationale.
Ghislaine Maxwell espérait être libre en attendant son procès, mais la justice américaine a décidé hier de la maintenir en détention. L'ancienne compagne et associée de Jeffrey Epstein a plaidé non coupable de trafic de mineurs et d'incitation à la prostitution.
La jeune fille triste, peinture du Bataclan attribuée au mystérieux artiste Banksy, a été rendue à la France hier. Elle avait été volée l'an dernier et retrouvée en Italie.
La jeunesse est la priorité de la relance économique. Emmanuel Macron a confirmé hier la mise en place d'un dispositif exceptionnel d'exonération des charges pour les jeunes, avec pour objectif l'embauche des salariés à faible qualification. Le chef de l'État a aussi annoncé l'ouverture de 200 000 places dans des formations qualifiantes supérieures pour permettre aux jeunes de poursuivre un peu leurs études. Ces formations qui viennent en complément d'un diplôme correspondent-elles à un vrai besoin ? Explication de Sonia Princey. Sonia Princey, qu'on essaiera d'entendre tout à l'heure, le plan de relance de l'économie française en tout cas comptera au moins 100 milliards d'euros en plus des 460 milliards déjà engagés. Le président de la République souhaite aussi rendre obligatoire le port du masque dans tous les lieux publics clos à partir du 1er août. Il a également annoncé la généralisation des caméras piétons d'ici la fin de son quinquennat pour lutter notamment contre les contrôles au faciès. Très bien, a réagi le syndicat des commissaires de la police nationale, mais à condition d'obtenir un matériel de qualité, un matériel fiable. Écoutez son secrétaire général David Lebars.
Aujourd'hui, la police est contestée, ou en tout cas l'action de la police est contestée par certaines personnes. Et on l'a dit, cette caméra piéton, c'est l'occasion pour le policier de pouvoir montrer sa bonne foi et avoir les preuves que sa vacation s'est passée de façon parfaitement normale. Et à l'inverse, si quelqu'un se plaint de l'action d'un policier, il saura que cette caméra pourra éventuellement fournir des images qui iront ou pas confirmer la version qu'il pourra tenir en se plaignant d'un policier. Donc pour nous, c'est une très bonne mesure. Après, nous demandons à voir. Ça fait 10 ans que ces caméras sont annoncées. Et actuellement, le matériel que nous avons, pour faire simple, on a moins de 10 000 caméras pour la police nationale, alors qu'on est 150 000 policiers. Et l'administration police a malheureusement acheté un modèle de caméra qui ne convient pas du tout. Il n'y a pas d'autonomie, la batterie n'est pas suffisante, et puis la qualité d'image et tout ça, on n'est pas au rendez-vous. Et je dirais même au-delà, les fonctionnalités de la caméra que nous avons actuellement en dotation ne conviennent pas. Donc il faut que le politique, non seulement achète ces caméras dans l'intérêt des policiers et des citoyens, mais achète du matériel de qualité pour que ça puisse convenir à toutes les demandes.
David Lebars du syndicat des commissaires de la police nationale, des propos recueillis par Florence Turm. Je vous en parlais au début de ce journal avant un petit problème technique. Emmanuel Macron a donc parlé hier de l'ouverture de 200 000 places dans des formations qualifiantes pour les jeunes. Pourquoi faire ? Explication de Sonia Princey.
Dans l'enseignement supérieur, l'insertion professionnelle des jeunes est un sujet d'inquiétude depuis plusieurs mois. La conférence des présidents d'université avait formulé quelques pistes dans le sens de ces annonces, comme le détaille la vice-présidente Christine Gangloff-Ziegler.
Nous avions travaillé sur des projets du type Bac plus 1, par exemple, beaucoup à destination des bacs professionnels pour leur permettre d'avoir une qualification supplémentaire ou une double compétence pour pouvoir entrer sur le marché du travail. Mais évidemment, ça pourrait être aussi des masters spécialisés ou autres. Il n'y a pas que les universités qui pourraient être concernées, mais également l'éducation nationale à travers les BTS, les classes préparatoires.
Cela permettrait de retarder l'arrivée de ces jeunes sur le marché de l'emploi qui sera déjà saturé, mais ce n'est pas forcément la solution pour Orlane François, présidente de la FAGE, syndicat étudiant.
Quand on a un jeune qui a fait 5 ans d'études et qui a envie de rentrer sur le marché de l'emploi, plus qu'une envie, c'est un besoin aussi, parce que étudier, ça coûte de l'argent, ça coûte un logement étudiant, ça coûte des transports. Pourquoi on ne lui propose pas un accompagnement, une aide humaine déjà, et puis financière, pour lui permettre de rechercher un emploi et de s'insérer sur le marché de l'emploi ?
L'an prochain, ce sont de nouveau 700 000 diplômés qui chercheront du travail, et on risque simplement de repousser le problème, selon la FAGE.
Après l'interview d'Emmanuel Macron hier, aujourd'hui, c'est au tour de Jean Castex de s'exprimer. Le chef du gouvernement prononcera sa déclaration de politique générale à partir de 15h à l'Assemblée nationale. Deux semaines après les municipales, le tribunal administratif de Nantes a annulé le premier tour à Malleville, en Loire-Atlantique. D'après l'entourage de la maire, Martine Lejeune, élue dès le 15 mars, la justice considère que les déclarations du gouvernement incitant les gens à rester chez eux ont été de nature à fausser la sincérité du scrutin, Rosalie Lafarge.
Le 15 mars, Martine Lejeune remporte à peine plus de 50% des voix à Malleville. Trois bulletins lui permettent de décrocher la majorité absolue sur fond d'abstention inhabituelle au lendemain d'une sorte de mise à l'arrêt du pays annoncée par le Premier ministre. Et c'est bien la conjugaison de ces trois éléments qui conduit à l'annulation, souligne le constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier.
Habituellement, seulement une forte abstention et un faible écart de voix ne suffit pas à annuler un scrutin. On peut tout à fait remporter une élection à une voix près. Là, c'est tout à fait exceptionnel, c'est justifié par des circonstances de l'espèce. On voit que le même jour, le même tribunal rend une décision inverse dans une autre commune, Herbignac, où là, il l'a emporté à 80 voix et le tribunal administratif considère que 80 voix n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.
C'est donc bien du cas par cas et il faut encore attendre de voir ce qu'en dit le Conseil d'État. Mais la décision pour Malleville suscite l'espoir des candidats déçus du premier tour rassemblés dans l'association 50 millions d'électeurs. Renaud Georges en est le président.
Je sais que lorsqu'un tribunal se montre courageux quelque part, eh bien les autres ont tendance à regarder un petit peu ce qui s'est passé et à voir si des décisions de même nature doivent être prises chez eux. Donc, évidemment, on est plutôt content que ce premier jugement nous donne raison et on espère qu'il sera suivi de beaucoup d'autres.
À commencer par la commune de Montoy-la-Montagne, le rapporteur public du tribunal administratif de Strasbourg demande l'annulation du premier tour dans cette ville de Moselle et ce n'est que le début d'une saga qui pourrait durer encore des mois. Plus de 3500 recours ont été déposés.
France Culture 7h07, Margot Delpierre, Ghislaine Maxwell reste en prison en attendant son procès dans un an.
Elle a plaidé non coupable hier de trafic de mineurs et d'incitation à la prostitution, mais présente un grand risque de fuite. Pour la première fois, l'ex-compagne et collaboratrice du financier Jeffrey Epstein était entendue. Elle est accusée d'avoir recruté des jeunes filles, certaines mineures, pour l'ancien homme d'affaires déchu et mort en prison l'été dernier. À New York, Loïc Loury.
Une prédatrice sexuelle au même titre que Jeffrey Epstein, c'est ainsi qu'Annie Farmer, victime présumée du couple lorsqu'elle avait 16 ans, qualifie Ghislaine Maxwell. À 40 ans, c'est la voix tremblante qu'elle s'est exprimée hier par téléphone. Une autre victime, celle-ci anonyme, elle témoignait par écrit. Maxwell aurait été la cheville ouvrière du réseau pédophile d'Epstein, capable de gagner la confiance des jeunes filles. Mais des réponses, Ghislaine Maxwell, pourtant dépositaire des secrets du financier déchu, n'en fournira pas tout de suite. Depuis sa cellule à Brooklyn, elle a en effet plaidé non coupable des 6 chefs d'accusation qui pourraient lui valoir 35 ans de prison. Revers de la médaille, elle restera derrière les barreaux en attendant son procès dans un an, sa liberté sous caution, malgré 5 millions de dollars sur la table a été refusée. Trop d'argent en banque, trop de contacts et 3 passeports dont un français, la juge a estimé que Ghislaine Maxwell avait les capacités de disparaître, cette fois pour de bon. Son procès pourrait permettre de lever un peu plus le voile sur les agissements de son ex-compagnon et sur les personnalités qui l'entouraient, dont certaines, comme le prince Andrew, l'un des fils de la reine Elisabeth II, sont aussi l'objet d'accusations.
Banksy avait peint une jeune fille à l'air triste sur une porte de la salle du Bataclan en hommage aux victimes des attentats de novembre 2015 à Paris. Volée l'an dernier, l'œuvre de l'artiste de rue a été retrouvée en Italie et officiellement restituée à la France hier. À Rome, la correspondance d'Antonino Gallofaro.
La dernière étape italienne de l'œuvre avant son retour en France, c'est l'immense salon d'Hercule dans le palais Farnèse, siège de l'ambassade française en Italie. En ce 14 juillet, Rome et Paris rendent ainsi hommage ensemble aux victimes du Bataclan, mais aussi de Nice, tout un symbole. L'ambassadeur Christian Masset.
C'est aussi un témoignage artistique, c'est probablement une des plus belles œuvres de Banksy. C'est la jeune fille à l'air triste qui nous rappelle combien ce massacre a été épouvantable et donc c'est une œuvre extrêmement émouvante.
L'œuvre volée de Banksy avait été retrouvée dans les Abruzzes, dans le centre de l'Italie. Grâce aux investigations françaises, les carabiniers italiens l'avaient retrouvée dans une ferme. Le général Roberto Riccardi a subi les enquêtes au sud des Alpes.
È stata custodita finora presso il caveau Nous avons gardé la porte dans notre caveau jusqu'à mardi, avant son voyage à Rome. Dans les prochains jours, elle sera accompagnée par les carabiniers italiens jusqu'à la frontière, où elle sera effectivement livrée aux autorités françaises.
Mais la date exacte de son retour en France n'a pas encore été divulguée.
Antonino Gallo-Faro, attendez-vous à de la pluie aujourd'hui en France, du Grand Est à l'Auvergne. Les températures au plus chaud de la journée seront de 20 degrés à Strasbourg et Lille, 18 à Brest, 21 à Paris et Auxerre, 23 à Bordeaux et 30 degrés à Nîmes, Chloé.
Merci Marc Godel-Pierre, il est 7h10.